Chapitre 17. On était arrivé au mois de mai. La Pentecôte approchait et le bon monsieur Scobel s'occupait de la décoration de son église et de la fête des enfants de l'école. On devait leur faire une distribution de thé et de baba dans cette délicieuse vallée, au milieu de laquelle un monument en fer, presque aussi artistique qu'une borne-poste, marquait l'endroit où le roi rouge avait été tué. Vixen avait promis d'assister à la fête. Pas de grande cérémonie, il était convenu qu'on n'y verrait pas de ces volées de jeunes ladies, affairées, pénétrées de l'importance de leur rôle, qui énervent et intimident les enfants. Non, une petite fête de famille, intime et cordiale, avec le seul concours du maître et de la maîtresse d'école. Et les manias de la propriété foncière ne devaient y prendre aucune part. Les enfants s'amusent beaucoup mieux quand ils ne sont pas entourés de ces gens bien habillés pour faire semblant de s'occuper d'eux, avait dit Mrs. Scobel. Mais je sais qu'ils seront enchantés de vous voir, Violette. Positivement, ils vous adorent. « Vraiment, alors je me demande pourquoi, » répondit Violette avec une parfaite sincérité. « Il est certain qu'ils vous aiment, ils sont heureux quand ils vous voient entrer dans la classe. Et ils vous montrent de la main, n'est-ce pas Miss Pearson ?» demanda Mrs. Scobel à la maîtresse d'école. « Oui, madame, et quoi que je fasse, je ne puis les en empêcher. »« Oh, les pauvres petits, » répondit Violette, « je ne vois pas de mal à cela. » Ils me font de si gentilles révérences quand ils me rencontrent dans la forêt. Argus leur plaît beaucoup. Je suis certaine que vous leur apprenez à être polie, Miss Pearson. Je serai contente de venir à votre fête scolaire, Mistress Scobel. Je dirai à notre vieille trémeur de faire des gâteaux à n'en pas finir. Ma chère Violette, ne tourmentez pas, je vous en prie, Mrs. Trémeur. Votre chère maman pourrait ne pas être contente. « Pas contente pour quelques gâteaux donnés à des enfants, ce n'est pas possible. Il faudrait qu'elle n'eût pas connu mon père. » La fête fut fixée, 3 semaines à l'avance, pour le mercredi après la Pentecôte. Et pendant ces 3 semaines, combien de petits météorologistes à l'école de Beechdale discutèrent les changements de lune et les autres phénomènes d'après lesquels les gens de la campagne décident des prévisions du temps. Pour peu que le coq chantât plus tôt que de coutume, ils en tiraient un pronostic suspect. Et le chat ne pouvait pas s'étirer innocemment, le dos au feu, que cette attitude nonchalante ne fût commentée comme un mauvais présage. Justement, ce mercredi-là, Mrs. Tempest avait invité quelques amis à dîner, sans cérémonie, à l'abbaye. Et notamment le capitaine Winstanley, qui avait prolongé de 3 mois la location du cottage de Mrs. Hawbuck. 15 jours avant de faire ses invitations, Mrs. Tempest était au courant du projet de fête. Mais à ce moment, elle avait oublié la date. Et elle fut froissée lorsque Violette insista pour tenir sa promesse envers Mrs. Scobel. « Mes chères mamans, je ne suis bonne à rien lorsque vous recevez, » plaida Vixen. « Si j'étais de quelque utilité, je renoncerais à la fête de l'école. »« Ma chère Violette, il ne s'agit pas des services que vous pouvez me rendre. » Mais je suis contrarié, je l'avoue, de voir que vous préférez passer votre soirée avec des enfants du commun plutôt qu'à la maison avec quelques amis. Je les sais par cœur, ces soirées-là. Je pourrais vous dire à l'avance tout ce qui se passera et presque tout ce que l'on dira. Comment l'on admirera vos fleurs après avoir critiqué les plantes exotiques de Lady Ellen Gowan. Comment la conversation retombera sur vos vieilles porcelaines pour s'accrocher ensuite aux graves questions de toilette. N'est-il pas affreux de payer un chapeau d'été 7 guinées comme Madame Jones ou Madame Green ou Madame Robinson? De là, l'entretien glissera sur une pente insensible pour s'arrêter à un problème non moins important, celui des domestiques. Quelle plaie! On ne trouve plus de bons serviteurs! Quelle race! Cette question étant épuisée, comptez qu'une jeune femme résumera le dernier roman paru en émaillant son analyse d'une quantité de « vous savez » et de « comprenez-vous ». Alors le capitaine Winstanley, car il vient, je suppose, chantera une chanson française, dont la compagnie ne comprendra pas quatre mots. Et enfin, vous montrerez à Mrs. Carteret votre dernière pièce de broderie, dont le travail artistique la mettra en extase. Que de sottises vous me débitez là, Violette! Cependant, si vous préférez les enfants à la société de votre mère et à celle de ses amis, vous êtes libre de suivre votre goût. Et vous me pardonnerez à l'avance, maman. Ma chérie, je n'ai rien à pardonner. Je ne fais que déplorer des goûts qui ne sont pas ceux d'une femme distinguée. Vixen fut heureuse d'en être quitte au prix d'un aussi court sermon. Au fond, elle n'était nullement fâchée que le dîner de sa mère tombât un jour où elle avait promis d'aller ailleurs. C'était une occasion d'échapper à ses réunions monotones. Le capitaine devait évidemment y être, et son antipathie n'avait pas diminué. Depuis qu'il habitait le cottage, elle l'avait vu bien souvent, non seulement chez sa mère, mais encore chez les gens les mieux posés du voisinage. Il n'avait rien fait pour l'offenser, il avait été extrêmement poli, et c'était tout. Il n'avait jamais dit à Violette un seul mot qui fît allusion à leur promenade au clair de lune, dans le jardin du pavillon de Brighton. Il n'avait même pas essayé d'un regard ou d'un soupir de faire deviner un amour caché. Elle n'avait aucune plainte à formuler contre lui. Mais ses fréquentes visites, sa conversation, son amabilité n'avaient pas pu triompher de l'antipathie qu'il lui inspirait. Le mercredi arriva enfin. Tous les terribles pronostics annoncés par les érudits de l'école furent réduits à néant. Le temps était superbe. Le soleil resplendissait au milieu d'un ciel sans nuages. Il était convenu que Violette prendrait Monsieur et Mrs. Scobell dans sa voiture. À 3 heures, elle était à la porte du presbytère. Le pétulant Titmouse, tourmenté par les mouches, piaffait avec impatience. Mrs. Scobell parut, tout effarée, suivie du vicaire. Chacun d'eux portait un grand panier. Derrière eux, une vieille servante qui avait été la nourrice de Mrs. Scobell, véritable tonneau surmonté d'une petite tête, était également flanquée d'un panier. « Les babas et les petits pains viennent directement de la ville, » dit la femme du vicaire. « Comme vous avez bonne mine, Violette !»« Mrs. Tempest, je l'espère, n'est pas fâchée que vous veniez avec nous. »« Cela lui est fort indifférent, » répondit Vixen en riant. « Mais elle me reproche de manquer de dignité, parce que j'aime à jouer avec les enfants de l'école. » Pendant ce temps, tous les paniers furent casés, Monsieur et Mrs. Scobell installés, puis Vixen donna aux rennes une légère secousse, et Titmouse, arrivé au dernier degré de l'impatience, partit presque au galop. Le vicaire semblait mal à l'aise. « Va-t-il toujours aussi vite ? » demanda-t-il. « Quelquefois beaucoup plus vite. C'est un vieux sauteur de haies. Il n'a pas oublié ses courses d'autrefois. Mais, évidemment, je ne le laisse pas sauter avec la voiture. »« Je l'espère bien, » s'écria le vicaire, « à moins que vous n'ayez envie de commettre un assassinat ou un suicide. Ne pourriez-vous le faire marcher un peu plus doucement ? Il court comme un chien à la queue duquel on aurait attaché une casserole. »« Il va s'arrêter tout à l'heure, » dit Vixen tranquillement. Si j'essayais de l'empêcher de faire à sa guise, il prendrait le mort aux dents. Si vous voulez arrêter, je descendrai. Je préfère marcher, dit Mrs. Scobell, dont la tête se trouvait juste à portée du sabot du poney. Oh non, si vous faisiez une chose pareille, je croirais que vous n'avez aucune confiance en ma manière de conduire. Elle arrêta Titmouse et le força à prendre un pas plus raisonnable, quoique assez vif cependant, mais qui rassura un peu le vicaire. Ils montèrent une longue côte. À moitié chemin, ils passèrent devant les chenils. Violette eut un regard de vive tristesse. « Pauvre papa, » soupira-t-elle, « était-il heureux lorsqu'il m'emmenait avec lui à la chasse ?»« Monsieur Vaudrey aura les chasses l'année prochaine, c'est tout naturel, puisqu'il sera le plus grand seigneur du pays lorsque les deux domaines d'Ashbourne et de Briarwood seront réunis. » Le duc ne vivra pas longtemps, un homme qui se livre à la bonne chère est sujet à la goutte au moins 2 fois par an. À quand le mariage, le savez-vous ? Demanda Vixen avec indifférence. À la fin de l'année, d'après ce que l'on dit. Lady Jane est morte au mois de novembre. Ils ne peuvent guère se marier avant 1 an. Avez-vous souvent vu Monsieur Vaudrey depuis son retour ? 3 fois, je crois, une fois au bal de Lady Southminster, une autre fois lors d'une visite à maman, et la 3e fois à Ellen Gowan, au thé. Il était avec Lady Mabel. On eût dit un petit chien tenu en laisse, ou un malheureux amené là par force, mais bien désireux d'être ailleurs. Si j'étais fiancé, je n'emmènerais pas mon fiancé à ces parties de thé. « Ah, Violette, quand serez-vous fiancée ?» demanda Mrs. Scobble d'un air enjoué. « Où est l'homme digne de vous ?»« Nulle part, à moins que le ciel n'ait créé pour moi un homme comme mon père. » »« Vous étiez si bons amis, Monsieur Vaudrey et vous, étant enfant, que j'avais cru pouvoir pronostiquer un jour pour l'avenir un sentiment plus profond. » »« C'était une grande erreur. Je n'étais pas digne de Monsieur Vaudrey. J'étais une camarade de jeu. » Mais il lui fallait une femme plus parfaite. Mais vos goûts sont absolument les mêmes. Excellente raison pour que nous ne nous aimions pas. Un poète a dit que l'amour naît des contrastes, mais je n'en crois rien, Violette. Vous voyez cependant que les faits donnent raison au poète. Voilà mon camarade d'enfance qui aime sincèrement les chevaux, la chasse et la vie de campagne. Et il s'attache à Lady Mabel, qui lit des comédies en grec avec autant de plaisir qu'en éprouvent d'autres jeunes filles à lire un roman palpitant, et où il n'est pas une idée, pas un geste qui ne soit absolument et strictement esthétique. Je crains que ce mariage soit plutôt le résultat d'un calcul que la conséquence d'une réelle affection, dit solennellement Mrs. Scobble. Ce sera certainement très beau de réunir Ashbourne et Briarwood. Mais Roderick Vaudrey a trop de délicatesse pour épouser une femme qu'il n'aimerait pas. Je ne le crois pas capable d'une telle bassesse, répondit bravement Violette pour défendre son ami d'enfance. Ils quittèrent la forêt, traversèrent un hameau composé de 5 ou 6 chaumières, d'une auberge rustique dans laquelle régnait le plus profond silence, et de 2 ou 3 maisons au milieu de grands jardins. Vixen, détournant la conversation, causa des enfants et des gâteaux qui leur étaient destinés. Cet agréable sujet les conduisit jusqu'à une colline escarpée. Le vicaire était descendu de voiture et marchait dans la poussière à côté du poney. La vallée verdoyante où fut tué le roi rouge semblait s'approfondir à leurs pieds, souriant aux rayons du soleil. Le panorama que l'on découvre du sommet de la colline est certainement le plus beau de la forêt. Une vaste plaine qui s'étend au loin jusqu'aux murailles blanches de l'ancienne abbaye de Romsey. Ici, un ruisseau serpente à travers la prairie qui l'égaye du murmure de ses eaux scintillantes. Là niche au milieu des arbres un modeste village, anonyme, sauf pour ses habitants. Au point culminant de la colline, Bates, le vieux groom à tête grise, qui avait toujours veillé sur Vixen depuis sa première promenade à cheval, prit possession de Titmouse et du poney Chaise, pendant que l'on débarrassait la voiture des corbeilles de gâteaux pour en charger un gamin qui les attendait. Puis, par un sentier à pic, véritable chemin de chèvre, ils descendirent dans la plaine, où les enfants étaient réunis en un groupe serré, au milieu duquel s'élevait une colonne de blanche fumée comme celle d'un sacrifice. Cette fumée venait de la bouilloire préparée pour le thé, à la mode des bohémiens, pour ainsi dire. Pendant 1 heure et demie, on ne songea qu'à faire du thé, à boire et à manger des gâteaux. La préparation du thé fut le principal amusement de la fête. Les tasses et les soucoupes furent fournies par une colonne de bohémiens civilisés, ayant l'apparence d'être du pays et passant l'été à servir dans les banquets champêtres. Des nappes blanches étaient étendues sur l'herbe et des piles de tartines, de babas et de gâteaux de toutes sortes tentaient la gourmandise des mouches. Après une courte prière dite à plein poumon, les enfants se jetèrent comme des affamés sur les tartines et les gâteaux qu'ils eurent bientôt fait disparaître. Depuis son retour dans le comté, Violette n'avait jamais été aussi heureuse. L'entourage de ses bambins, dont l'appétit faisait plaisir à voir, leurs faces réjouies, lui firent oublier tous ses chagrins. Lorsque le repas fut terminé, et pour cause, il ne restait pas une miette de provision, s'il restait encore un peu d'appétit parmi les bandes de bohémiens, Vixen conduisit les petits tapageurs un peu plus loin et organisa des jeux. « Je suis bien fatigué !» s'écria Vixen à la fin, quand l'horloge de l'église sonna 8 heures. « Je crois réellement que je ne serai pas de la prochaine partie. »« Oh si, Miss !» s'écrièrent 20 voix à la fois. « Oh si ! Nous ne pourrions pas jouer sans vous. Vous seul savez conduire les jeux. » Cette flatterie fit son effet. « Eh bien, je vous mettrai en train, » soupira Vixen tout essoufflé. « À quoi voulez-vous jouer ?»« À Colin Maillard !» crièrent les garçons. « Au furet !» ripostèrent les filles. « Colin Maillard est plus amusant, » dit Vixen. « Ce petit bois offre une place magnifique pour y jouer, mais je ne fais que mettre le jeu en train. Qui se met au milieu ?» Monsieur Scobel s'offrit. Jusque-là, il était resté tranquille spectateur des jeux. Mais c'était la dernière partie, et il crut pouvoir se prêter un peu à l'amusement des enfants. Vixen lui mit le mouchoir sur les yeux et le laissa chercher aventure, les bras étendus, au milieu des rires joyeux des enfants. Il ne resta pas longtemps, il mit la main sur une grosse fillette que trahissait sa respiration bruyante. Un sourd l'eût reconnu. « C'est Polly Sims, » dit le vicaire. Aussitôt, Polly fut faite aussi aveugle que la justice et la fortune. Elle erra longtemps au milieu des arbres, faisant de grands efforts dans le vide, soufflant comme une locomotive, se heurtant à droite et à gauche, et risquant fort d'endommager le peu de cervelle qu'elle possédait. Elle réussit enfin à se faire remplacer par Bobby Jones, un malin au jeu, qui tint tout le monde en alerte par la vivacité de ses mouvements. Tout à coup, on entendit un cri de triomphe. Bobby avait attrapé Miss Tempest. « Je l'ai tout de suite reconnue à sa robe de mousseline et au parfum qui est dans son mouchoir, » s'écria-t-il. Violette se soumit de bonne grâce. « Je suis bien fatiguée, » dit-elle. « Je crois bien que je n'attraperai personne. » Le soleil avait presque disparu à l'horizon. La nuit allait bientôt venir. Le bois prenait un aspect fantastique. On pouvait craindre à chaque instant de voir errer quelques druides dans les étroits sentiers de la forêt. Violette se mit en marche sans entrain. Réellement fatiguée, elle voyait arriver la nuit avec plaisir. Elle allait lentement d'un arbre à un autre, étendant les bras, glissant parfois sur la mousse, s'enfonçant dans les tas de feuilles mortes restées là depuis l'automne dernier. L'air était doux et frais, on sentait déjà l'approche du brouillard, chargé des émanations parfumées des fleurs sauvages. L'approche de la nuit faisait sentir sa fraîcheur. Les enfants étaient devenus silencieux. Cette partie du jeu était l'apogée de la fête. Violette sentit peu à peu qu'elle s'enfonçait dans un terrain humide couvert de feuilles. Elle approchait d'un bourbier couvert de verdure, lequel avait été souvent funeste à plus d'un cavalier. Elle n'avait encore attrapé personne. Elle pensa qu'elle s'était peut-être trop éloignée, qu'elle se trouvait sur le point de perdre tout le monde, ou plutôt de se perdre elle-même et d'être abandonnée dans l'obscurité de la forêt. Déjà, la solitude l'envahissait. Elle était sur le point d'ôter le mouchoir qu'elle avait devant les yeux, quand ses bras étendus saisirent quelqu'un, un homme couvert d'un vêtement de chasse. Elle n'avait pas eu le temps de se demander qui elle avait attrapé, que deux bras vigoureux la saisirent. Elle se sentit attirée sur une large poitrine, sur un cœur qui battait fortement contre son épaule, et deux lèvres qu'elle reconnut trop pour leur en vouloir de leur audace, l'embrassèrent avec toute la passion d'un amoureux. « Ne soyez pas fâchée, » lui dit une voix familière. « C'est la règle du jeu, je crois, et s'il n'en est pas ainsi, je suis sûre que cela devrait être. » Une main lui enleva doucement le bandeau et elle se trouva en face de Roderick. Elle ne distingua rien sur sa physionomie qu'une amitié toute fraternelle, que la joie d'un vieil ami heureux de la retrouver après un long intervalle. Ce baiser dérobé ne la mettait pas du tout en colère. « Ce n'est pas la règle du jeu chez les gens du monde, quoique cela puisse se passer ainsi entre les paysans et les servantes d'auberge, » s'écria-t-elle d'un air indigné. « Réellement, vous êtes un homme fort mal élevé. Je suis étonné que Lady Mabel ne vous ait pas appris des manières plus distinguées. » Est-ce là ma récompense pour vous avoir évité de vous enfoncer dans le bourbier qui est là tout près ? Comment êtes-vous là ? Je suis allé à Langley Brooch pour une partie de pêche, et je rentrais d'une humeur exécrable, furieux de ma mauvaise chance, lorsque j'entendis les cris des enfants et aperçus Monsieur et Mrs. Scobble au milieu des élèves de l'école. Les enfants étaient inquiets. Ils jouaient en silence, et à un coude du sentier, ils vous ont perdu de vue. « Ah, voici Monsieur Scobble !» Le vicaire accourait, heureux d'apercevoir la robe blanche de Violette. « Ma chère, quelle frayeur vous nous avez faite ! » s'écria-t-il. « C'est maladroit qui vous perdent de vue. Décidément, un bois n'est pas convenable pour jouer à Colin Maillard. »« Je suis de votre avis, » répondit Vixen très pâle. « On dirait que vous avez eu peur, » dit le vicaire. Je me suis trouvé horriblement seul, pas un cri, sauf celui du hibou et le coassement des grenouilles. Puis, il a fait froid depuis que le soleil a disparu. Voyez comme ces arbres ont l'air de grands fantômes. Un bois est terrible après le coucher du soleil. » Elle continua d'un ton très animé, masquant son agitation sous une frayeur factice. Roderick l'examinait attentivement. Monsieur et Mrs. Scobble réunirent les enfants pour le retour. Après une journée de plaisir et de liberté, les enfants étaient portés au bruit et à la désobéissance. Il leur paraissait dur de rentrer dans leur chaumière alors qu'ils s'amusaient si bien. « Voulez-vous que je vous accompagne jusqu'au haut de la colline ?» demanda doucement Roderick à Violette. « Le vicaire et sa femme accompagneront leur petit troupeau. »« Je dois reconduire Monsieur et Mrs. Scobble dans ma voiture, » répondit Vixen. « Mais où est votre voiture ?» « Je ne sais pas, je crois que nous la trouverons en haut de la côte. »« Eh bien, allons la retrouver ensemble, à moins que ma présence pendant un quart d'heure ne vous cause de l'ennui, ou que vous m'en vouliez de mon impertinence de tout à l'heure. »« Ce n'est pas assez sérieux pour en parler, » reprit Vixen tranquillement, après une petite pause. « Sur le moment, j'étais fort en colère, mais entre nous, il y a quelques années, nous étions comme frères et sœurs. » Cela ne peut avoir grande importance, quoique je n'en ai pas gardé grand souvenir. Je crois bien qu'à cette époque, vous m'aviez déjà embrassé. « Cela m'est arrivé une ou deux fois, je crois, » répondit Rory avec une louable gravité. « Alors, que votre impertinence soit mise sur l'ancien compte, que nous clôturerons ce soir, si vous le voulez bien. » Mais le voyant se rapprocher d'elle avec empressement. « Rappelez-vous qu'il ne faudra jamais recommencer. Je ne vous le pardonnerai pas. »« Je ferai beaucoup de choses pour échapper à votre colère, » dit Rory avec douceur. « La situation était vraiment trop ridicule, » poursuivit Vixen avec une gaieté forcée. « Une jeune fille errant seule, les yeux bandés dans les bois, cela devait vraiment paraître absurde. »« Cela était loin d'être absurde. Pour moi, » riposta Rory. Rory et Vixen gravissaient lentement la colline gazonnée dont l'herbe jeune et courte semblait grise au crépuscule. Les vers luisants commençaient à paraître au pied des buissons. La lune pâle éclairait la vallée. On apercevait au loin les champs de blé naissants et la prairie où paissait le bétail. « Je crois avoir oublié de vous féliciter de vos fiançailles avec votre cousine. » dit tout à coup Violette, après avoir marché assez longtemps dans le plus complet silence. Elle essayait d'amener à bonne fin une ancienne résolution. Elle avait toujours eu l'intention d'aller franchement à lui, de lui tendre la main pour lui faire ses souhaits de bonheur. Elle croyait en avoir dit trop peu au bal. Elle ne lui avait pas fait suffisamment comprendre qu'elle était contente. « Croyez-moi, je suis vraiment très heureuse de vous voir épouser une femme du pays. » Cela augmentera votre influence parmi nous. « Vous êtes bien bonne, » répondit Rory avec une excessive froideur. « Il est d'usage, dans ces circonstances, je crois, de recevoir des félicitations. C'est une convention. Ma future femme est à la fois aimable et accomplie, comme vous savez. J'ai donc raison d'être très fier de la préférence qu'elle m'a fait l'insigne bonheur de m'accorder, aux dépens d'un grand nombre de prétendants. Mais laissez-moi vous l'avouer, à l'époque de la mort de votre père, nous en avons parlé, et je me suis exprimé sur ce sujet avec quelque énergie. Je suis contraint de vous dire que mon engagement avec Mabel est une concession faite au désir de ma pauvre mère. C'était au moment de notre séjour en Italie, ma mère était mourante. Mabel fut pour elle d'un dévouement et d'une bonté au-dessus de tout éloge. Tout mon cœur alla à elle par affection, par reconnaissance. Je savais que ma mère serait heureuse de nous voir irrévocablement liés l'un à l'autre. C'est ainsi que la chose se fit, presque à l'improviste. Et j'ai toutes les raisons pour être fier et heureux de ce que le sort m'ait favorisé si fort au-dessus de mes mérites. Je suis très contente que vous soyez heureux. » Après cela, il se fit un silence qui dura plus longtemps que celui qui avait précédé cet entretien. Et ils arrivèrent en haut de la colline avant que l'un ou l'autre l'eût rompu. Puis Vixen posa légèrement la main sur le bras de son ancien camarade d'enfance et lui dit avec une extrême gravité, revenant sur un thème qui lui tenait au cœur. « Quand vous irez au Parlement, vous aurez une grande influence. Ne les laissez pas abîmer la forêt. Ne laissez pas ces horribles économistes, sous prétexte de gagner quelques livres sterling, changer et détruire des sites qui sont si beaux et qui font le bonheur de tant de monde. L'Angleterre est un pays riche, n'est-ce pas? Elle peut bien se permettre de garder quelque chose pour ses peintres et ses poètes, voire même pour les humbles touristes en vacances. Ne laissez pas détruire ni abîmer notre forêt. Rory, que tout reste comme au temps de notre enfance. Tout ce que ma voix et mon influence pourront faire pour arriver à ce but, Violette, sera fait, répondit-il avec une gravité égale. Je suis content que vous m'ayez demandé quelque chose ce soir. Je suis très heureux que vous m'ayez procuré l'occasion de faire quelque chose pour vous. Ce sera comme une devise pour mon blason plus tard, lorsque je serai élu. Je dirai, je crois, pour Dieu et pour Violette, quand je lutterai contre les dévastateurs qui voudront éclaircir nos bois. Il s'inclina et lui baisa la main en vrai chevalier. Il eut juste le temps de le faire tout à son aise avant l'arrivée de Monsieur et Mrs. Scobble et des enfants, qui, de leurs voix stridentes et joyeuses, chantaient un des hymnes de la fête des moissons. « Quelle nuit délicieuse !» s'écria Monsieur Scobble. « Nous ferons bien, je crois, de revenir tous à pied. Ce sera bien plus gentil que d'aller en voiture. » Il disait cela en souvenir des allures fantasques de Titmouse dans l'après-midi. Au fond, et sans vouloir l'avouer, il tremblait de peur que le poney ne se comportât encore plus mal au retour. Comment se fier à un animal comme celui-là, vif comme la poudre? Quelle vie il allait faire en reprenant le chemin de son écurie à la lueur incertaine des étoiles, sur une route bien boisée et, de plus, conduit par Violette Tempest? Il n'y avait pas là de quoi rassurer l'honnête pasteur. « Dans tous les cas, je préfère marcher, » continua M. Scobble d'un air pénétré. « On aura besoin de moi pour aider à surveiller les enfants. »« Rentrons donc tous à pied, » insinua Roderick. « Nous pourrons prendre à travers champs. Ce sera très joli au clair de lune. »« Bates ramènera bien votre poney, Violette. » Violette hésitait. « Il n'y a guère que 4 miles à travers champs, » dit Roderick. « Croyez-vous que la longueur du chemin m'effraie ?»« Évidemment non, vous étiez grande marcheuse il y a 3 ans. »« Je ne suppose pas qu'un hiver à Paris et une saison à Brighton aient pu tout à fait vous gâter. »« Ce sera comme vous voudrez, Mistress Scobble, » dit Vixen en s'adressant à la femme du vicaire. « Allons à pied, » répondit Mrs. Scobble, qui devinait les craintes de son mari au sujet de Titmouse. « Bates, vous pouvez alors ramener le poney, » et surtout, donnez-lui un bon souper. » Titmouse descendit la colline d'un pas qui justifiait presque les craintes du pasteur. « Dieu soit loué, nous ne serons pas ramenés par cette brute, » s'écria-t-il dévotement. Les promeneurs se remirent en marche. Vixen et Roderick allaient en avant. Les enfants suivaient en rang, chantant avec un entrain qui faisait honneur à leurs poumons. Leur chant est très mélodieux quand l'acuité de leur voix est atténuée par l'éloignement, dit Roderick. Et Violette et lui prirent un pas qui laissa bientôt les enfants à une bonne distance derrière eux. Adoucie par un quart de mile environ, la musique prêtait un charme nouveau à la nuit tranquille et parfumée. Ils arrivèrent à un enclos à travers lequel un étroit sentier conduisait directement à Beechdale, puis à une vallée plantée d'arbres séculaires. les grands hêtres au tronc argenté ressemblaient à des arbres couverts de neige. C'était un labyrinthe dans lequel un étranger se serait inévitablement perdu. Mais chaque coin en était familier à Vixen et à Rory. Ils avaient souvent suivi les chasses à travers ces chemins couverts de verdure. Ils les avaient parcourus à toute saison, soit à pied, soit à cheval. Ils marchèrent quelque temps sans parler, jouissant de la beauté de la nuit. Le silence n'était interrompu que par le chant des enfants, dont les voix leur rappelaient les jours de leur enfance. « Ne vous semble-t-il pas que les anciens jours de notre enfance soient revenus ?» dit Roderick. « Oui, vous êtes comme autrefois une petite fille. Et nous allons ensemble cueillir des bruyères et des primes verts. Ne trouvez-vous pas ?»« Non, » répondit Vixen, « rien ne peut me rendre le passé. Je n'oublierai jamais que j'avais un père, le meilleur des pères, et que je l'ai perdu. »« Chère Violette, » reprit Roderick avec douceur, « la vie ne peut se passer à pleurer les morts. Gardons toujours au fond de nos cœurs leurs souvenirs, leur image, mais n'enterrons pas notre jeunesse. Songez combien sont courtes les années de jeunesse que Dieu nous accorde. Et si nous les gaspillons en vaines douleurs, personne ne peut dire que je ne profite pas de ma jeunesse, ni que je m'enterre toute vivante. Je vais dans le monde, je dîne en ville, je danse. » Ma mère et moi, nous avons fait tout le possible pour prouver au monde combien nous pouvons être heureuses sans papa. Le cher vieux baronnet, dit affectueusement Rory, il m'aimait bien, je crois. Moi, j'en suis sûr, répondit Vixen. Allons, c'est vrai, nous commençons une nouvelle vie. Je crois que vous avez raison et qu'il n'est pas possible de supposer le retour du passé, ne fût-ce que pour un instant. Le présent pèse si lourdement sur nous. « Oui, » répondit Vixen. Ils étaient au bout de l'enclos. S'appuyant sur la barrière, ils attendirent les enfants. « Après tout, Vixen, il vaut peut-être mieux vivre dans le présent et regarder le passé comme un souvenir qui doit finir par s'effacer. »« Je préfère penser que je ne suis pas la Violette d'autrefois, » dit Vixen. « Je sais qu'il y avait une petite fille que son père appelait Vixen, qui l'accompagnait à la chasse, qui courait à travers les bois sur son poney sauvage, sauvage elle-même comme les poneys de la forêt. Mais je ne puis l'assimiler à la jeune fille que voici, » ajouta-t-elle en se montrant elle-même avec dédain. « Et laquelle supposez-vous la meilleure ?» demanda Rory. « La violette sauvage d'autrefois ou l'élégante fleur de maintenant ?»« Je sais laquelle était la plus heureuse. » Ah ! Soupira Rory, le bonheur est une habitude que nous perdons en devenant homme. Mais vous, à 19 ans, il vous reste bien encore une année ou deux. La troupe des enfants approchait. Formant une colonne serrée, ils chantaient avec ardeur leur gai refrain. Monsieur Scobble était à leur tête, battant la mesure avec sa canne.